De voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet, il a mis son chandail du groupe, il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe, il a acheté son billet et il y a pensé toute la semaine.
N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec.
Bon matin et bienvenue sur CKUT 90.3 FM. Marc-André au micro avec son acolyte et non alcoolique Nelson. Comment vas-tu?
Ça va très bien, Marc-André. Non, je ne suis pas un alcoolique. Effectivement, je bois de l'eau et du gourou uniquement.
Je bois
pas d'alcool.
Ouais, c'est bien ça. Moi non plus, d'ailleurs.
Non, c'est pas vrai. J'en bois un peu.
D'accord.
Mais je ne suis pas alcoolique.
Et qu'est-ce qu'on vient d'écouter? On a starté ça comme des champions ce matin.
Exactement. C'est un groupe montréalais, croyez-le ou non,
yeah,
qui chante en japonais.
Yeah.
C'est le groupe Teke Teke. C'était la pièce Chichana Tokikara.
J'adore ton japonais.
Konnichiwa.
Konnichiwa.
Arigato plutôt.
Arigato, ouais.
Et oui, donc c'est un groupe québécois qui chante en japonais et qu'on a découvert, toi et moi, au Festival de jazz. L'édition 2021 COVID-proof.
Yeah.
Et c'était vraiment un excellent spectacle. On a vraiment été impressionnés par toute la prestation des musiciens, de la chanteuse qui était vraiment comme une réincarnation de Björk version japonaise québécoise. Et même si on ne comprenait pas les paroles, c'était vraiment bien.
Moi, elle a une voix incroyable. Une
super voix. Puis elle a vraiment une belle prestance sur scène, toujours en comme en personnage, là, si on peut dire. Là. C'était très théâtral là, comme performance.
Très personnifié.
Oui. Ouais. Puis non, c'est ça, c'est un excellent groupe. Puis c'est influence rock, surf rock des années 60. Et sûrement d'autres influences que je connais moins. Mais...
Le rock psychédélique des années 70 aussi.
Oui, oui, oui.
Ben oui, c'est ça, c'est 7 musiciens de Montréal qui, avec leur premier album Cola Cola, ou c'est, je sais pas comment le prononcer.
On dit Coca-Cola.
Oh, Coca-Cola,
non,
d'accord.
C'est pas vrai. Non, c'est vrai.
Ils sont signés, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, qu'est-ce qui est vraiment incroyable, ils sont signés sur le label Sub Pop. Tu te rappelles du label Sub Pop de Seattle,
ouais.
Les Modoni et tout le grunge de Seattle.
Ouais.
Fait que c'est le premier groupe montréalais, québécois, peut-être même canadien, ça, je suis pas sûr à 100%, mais ouais. Au moins montréalais.
Non, je pense qu'il y a d'autres groupes, peut-être de l'Ouest canadien.
Ah, peut-être, les Trust Hermit, puis...
Dans tout... le temps de Arcade Fire,
okay.
Il y avait sûrement un autre groupe. En tout cas, bref, continue.
Ouais, mais c'est ça, mais la pochette, j'ai l'espèce de carte postale promotion de l'album de Teke Teke. Et ça ressemble étrangement au le visuel aux albums jazz qui sortaient dans les années tu sais sur Verve là les Stan Getz tout ça beaucoup de rouge beaucoup d'orange c'est très abstrait comme
ouais.
Peinture
peinture abstraite là.
Ça te donne aucune idée de ce que tu vas aller écouter ça tu dis pas ok hey, ça doit être du rock psychédélique tu le sais pas là
non.
Ça peut être du jazz ça peut être du art rock ça peut être du
ouais.
Prog rock whatever mais quelle belle surprise la voix la prestance de tous les musiciens une atmosphère très les films que Quentin Tarantino pour faire Kill Bill s'était inspiré
ouais.
Lady Vengeance tu sais des films japonais des
coréens.
Ouais.
Lady Vengeance, c'est un film coréen.
Oui?
Ouais.
Non, ouais, non, non, mais il y a une autre série de 2-3 films que c'est japonais. La fille, elle se fait emprisonner. C'est un film là, de prison de femme, puis il y a de la torture, puis elle s'échappe. Puis en
je
tout cas,
connais pas.
Moi, faudrait checker le réalisateur, mais je sais que Quentin Tarantino aimait beaucoup cet
ouais.
univers-là. Puis moi, quand j'avais vu le film, ça fait même pas un an, je disais, aïe, ok, c'est faut que je réécoute Kill Bill, là, parce qu'il y a des emprunts assez magistraux
ouais,
qui ont
ouais,
été pris
ouais.
de là. Fait que...
Ouais, clairement, Tarantino est réputé pour
des pastiches.
Ses multiples influences qui. Calque, pour pas dire copie, qui utilise dans ses films, mais bon, c'est un cinéphile, c'est un amoureux, un passionné du cinéma à la base, donc pour faire du cinéma, il faut que tu aimes le cinéma, puis clairement, lui, il aime beaucoup le cinéma,
ouais.
Surtout le cinéma répertoire, surtout de série B,
ouais.
Des films obscurs que personne n'a déjà vu, entendu parler, puis surtout les films de genre, donc Kill Bill, clairement, c'est comme un amalgame de tous ses intérêts, surtout de cinéma asiatique, effectivement.
Exactement. Fait qu'on avec la musique au concert, on se sentait voyager dans cet univers-là. On se sentait pas dans les années 2021 COVID, on se sentait plus dans les années 70, rock un peu psychédélique, surf rock, comme tu l'as dit. C'est très cinématographique comme
ouais,
musique.
Ouais, ouais.
Surtout,
ouais.
Comme tu dis, on comprend pas les paroles. Fait qu'on peut s'imaginer ce qu'on veut. Là.
Effectivement.
Puis juste la construction aussi des pièces, c'est pas... tu sais, il y a des tunes de 7 minutes, il y a des tunes
ouais.
très longues. Des fois, ils partent sur un riff qui va pas revenir. Tu penses que, all right, maintenant, ils repartent sur d'autres choses.
Effectivement, la pièce qu'on a choisie, elle dure 3 minutes. C'est une pièce qui est très radio. Là.
Ouais.
Mais non, on aurait pu choisir d'autres pièces qui durent 7-8 minutes parce que là, c'est comme une intro qui dure la moitié de la chanson. On sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. C'est un peu plus exploratoire, expérimental. Puis là, bang, en plein milieu, la chanson devient plus rock avec un riff et vraiment une mélodie plus traditionnelle. Là. Donc, ouais, c'est vraiment à découvrir là, pour ceux qui connaissent pas. Là.
Exact. Puis nous, on est en train de découvrir à peine. On est même en retard. Il y a bien du monde qui en parle depuis longtemps. J'ai un article dans un journal aussi qui date de 2020. Ah, ben, c'est pas si vieux que ça.
Ben, un an.
Mais un an, mais je veux dire, c'est ça. On avait entendu parler, mais on n'avait pas eu la chance. Mais la meilleure manière de vendre un groupe, je pense, c'est le spectacle.
Ouais.
Puis le disque, naturellement, mais en les voyant en show, si tu connais pas les chansons ou la musique, puis t'embarques,
Ouais.
Imagine quand tu vas découvrir l'album, tu vas capoter.
Ouais. C'est... Surtout qu'eux, ils donnent un bon show dans le sens que les musiciens sont tous un peu costumés. Ils avaient tous un genre d'habit. Moi, à la blague, je disais que ça ressemblait à des habits de salon de coiffeur. L'espèce de sarrau que la coiffeuse met.
Ah, là, OK.
Le truc, la toge noire là, que les coiffeuses mettent là, pour se protéger. Mais les musiciens, c'est clairement pas ça, mais c'est un truc, j'imagine, japonais.
Leur styliste japonaise va vouloir te pitcher, va vouloir te faire une vendetta.
Clairement, je suis inculte, là, je connais pas. Mais non, c'était vraiment beau. Puis évidemment, la chanteuse, il y avait aussi une musicienne qui jouait de la flûte, mais qui joue de la flûte dans toutes les pièces.
Oui, flûte traversière et d'autres flûtes. Ouais. Ouais. Ça aussi, c'est intéressant, c'est que il y a des instruments aussi qu'on n'est pas habitué d'entendre. La flûte traversière, j'en connais pas beaucoup de groupes que j'écoute qui a de la flûte traversière. Et il y avait de la trombone aussi, il y avait du trombone, pardon.
Oui, c'est vrai.
Fait que ça donne une ambiance totalement différente.
Ouais.
Ça me faisait même penser un peu à le No Smoking Band de Emir Kusturica, dans le sens que c'est cinématographique, c'est dans... J'associe ça à un film.
Donc là, on a parlé de Teke Teke, mais on voulait aussi parler d'autres choses avant de passer à la prochaine chanson, ou non, on passe direct à la prochaine?
Je vais passer à la prochaine. Fais juste me cuer où est-ce que je m'en vais.
Ben, je vais le présenter. C'est Rama Sutra, qui est le disque numéro 1 sur le CD Player, Marc-André. Parce que oui, on est toujours en mode homemade, compact disque. Et la pièce numéro 2 qui est Murder.
Rama Sutra de East Infection. We'll be right back.
Alors, c'était Ramasutra, Marc-André?
Oui, c'est l'album Ramasutra de East Infection. Ramasutra, DJ Ram qu'on connaît, je vais essayer de bien prononcer son nom, c'est Ramachandra Borkar, qui est un percussionniste, drummer, producteur. Il fait des vocalises aussi, tout ça. Et c'est son premier album. Le premier album, c'est celui que j'ai entre les mains, qui a une belle personne légèrement vêtue, mm-hmm, qui nous regarde avec son regard perçant. Et à l'intérieur, là, on parle d'un CD. C'est le vinyle. Je pense pas qu'il y a de copie vinyle de cet album-là. Et à l'intérieur, il y a cette même mademoiselle qui, après avoir écouté l'album, est en extase totale.
Elle a apprécié la musique.
Elle a apprécié la musique. Et là, le logo de Ramasutra qui revient souvent, c'est comme une espèce de crabe. Ou sinon, c'est peut-être un morpion. Je sais pas trop.
Un crabe, un crustacé.
Un crustacé.
Dans cette famille-là.
Exactement.
Ouais. Puis, ben, c'est ça. Puis, DJ Ram ou Ramasutra, il a fait un album, mais il a aussi fait d'autres choses. Hein. Il a fait de la musique de film, je crois, ou de la musique de...
Oui, il est dans... Ben, j'ai aussi parlé qu'il a fait un EP qui s'appelait El Pipo del Taxi.
OK.
Puis il y a 5 chansons dessus. Là, qu'est-ce qu'on venait d'écouter aussi, c'est très important de le dire, c'était la track, la pièce numéro 2, Murder. Et pas Murder, mais Murder. Et si vous vous souvenez, si vous voulez voir du visuel qui est très intéressant, il y a un vidéoclip de ça qui avait été tourné à ce moment-là. Et ça se passe dans le jardin chinois à Montréal. Fait que, c'est
au jardin botanique.
Au jardin botanique, le jardin chinois.
Ouais.
Fait que c'était de toute beauté.
Je me souviens que ça avait roulé à l'époque à Musique Plus, dans le temps qu'on écoutait ça pour la musique.
Pour la musique.
Quand
il y avait des vidéoclips.
Quand il y avait des vidéoclips de musique.
Ah, OK. Maintenant, il y a quoi à Musique
Plus? Ben, maintenant, il n'y a plus Musique Plus.
Ah, OK. Je pensais que c'était des reality shows.
Ben, avant que ça ferme, il y avait effectivement des télé-réalités, mais ouais. Il fut un temps où il y avait de la bonne musique sur Musique Plus. Il y avait des VJ, des personnes qui choisissaient des vidéoclips pour nous.
Ah.
Puis qui animait des émissions.
on va pas y revenir. Mais en finissant avec DJ Ram, pour les intimes, Ram, deux choses que je tiens à mentionner,
ouais,
puis qu'on va sûrement revenir là-dessus. Un de mes groupes favoris, avec qui j'ai eu la chance de, dans un autre vie, jadis, naguère, autrefois, il était drummer pour un groupe local de hardcore. Hardcore, mais différent, ça s'appelait Hazy Azure. C'était le drummer de la première mouture de ce groupe.
Wow.
Avec Trevor Thompson.
Là,
on remonte aux
années
90.
Les années 90.
Ouais, 88 jusqu'à
début 90.
Ouais.
Okay.
Et également, Ram, Monsieur Borkar, a fait la première partie d'un groupe aussi flyé qui s'appelait Mr. Bungle.
Ah oui?
Il avait joué au Metropolis, quand ça s'appelait encore le Metropolis. Et qui faisait la première partie? C'est notre DJ local.
Ah oui?
Et avec full instrumentation, les voix qu'on entend, la chanteuse était là, des musiciens. Fait que ça... Si je peux m'exprimer ici en anglais, tu sais, je le dis comme je parle, le double bill, là,
le programme double.
Le programme double, merci de la traduction simultanée. C'était... L'amalgame était parfait. C'était deux groupes que visuellement, tu sais, voir les musiciens, voir l'ampleur, tu sais, Mr. Bungle avec Mike Patton.
Ouais.
C'était vraiment une belle soirée. Je trouvais que, tu sais, des fois, trouver un artiste local qui est dans la même zone que l'artiste principal, c'est difficile.
Ouais.
Mais là, le match, le mariage entre les deux groupes était parfait.
C'était un bon fit.
C'était un bon fit, comme on dit.
Je peux comprendre. Je peux imaginer que, ouais, effectivement, Ramasutra, qui est une musique qui est un peu touche à tout, là, qui a plusieurs influences. Ouais. Mr. Bungle, qui est une musique très exploratoire, qui se promène un peu dans tous les sens. Donc, c'est vraiment deux univers qui sont très similaires. Là.
Exactement. Puis les deux, il y a un côté encore là très cinématographique.
Oui.
Puis vu que maintenant, Ram fait de la musique de film, je pense que c'est lui. La télésérie avec Marc-André Grondin, le.
Ah, qui a joué à TVA très longtemps.
Oui, il y avait deux saisons.
Et j'ai un blanc, j'ai oublié c'était quoi.
Oui, ben moi aussi. On est...
L'étranger, quelque chose comme ça?
Pas l'étranger. Mais c'est quelqu'un qui prend la personnalité d'un autre.
Ouais.
En tout cas, me semble, c'est lui qui fait la musique du...
Puis sauf erreur, il a aussi composé la fameuse chanson, le thème de « Tout le monde en parle ». C'est lui qui a fait ça.
Ah oui? Ouais. OK, je savais pas.
Sans blague.
OK, tu m'en apprends une bonne. Oui, oui, oui.
Parce que vraiment, tout le monde en parle. Ben, sauf erreur, je pense qu'il joue encore le petit thème musical au début de l'émission. Là.
OK, j'écoute. Puis c'est lui qui l'aurait composé?
Puis c'est lui qui l'a composé.
C'est lui qui a l'écrit. L'original. La...
Oui.
Ouais. Fait que c'est vraiment lancé dans la musique de films ou de téléséries ou d'émissions de télévision. Fait qu'on le salue.
Parlant de films, Marc-André, on a vu un film sur Netflix.
Oui.
Et c'est un documentaire sur la musique qui s'appelle Count Me In et qui est un documentaire qui parle particulièrement des drummers ou les batteurs. Donc, les joueurs de batterie, on peut dire, tu sais, rock, là, on s'entend dans l'univers du rock, là, qui est un excellent documentaire qu'on a beaucoup apprécié, toi et moi.
Oui, on l'a pas écouté ensemble. Tu l'écoutais avant et tu me l'as conseillé.
Exactement.
Et je me suis dépêché de t'écouter. Je l'ai écouté peut-être une semaine et demie après.
Ouais.
Parce qu'on savait qu'on allait en parler à un moment donné. Fait que c'est là qu'on va en parler.
Qui est un excellent film qu'on vous recommande fortement pour même si vous n'êtes pas un tripeur de musique rock.
Mais si vous êtes un tripeur de musique, vous allez encore triper.
Vous allez encore plus triper, évidemment. Exact. Mais même si vous n'êtes pas un tripeur de musique rock, c'est juste à la base un bon documentaire qui qui je trouve que c'est un film qui véhicule bien la passion qu'on peut avoir pour jouer de la musique, qui je trouve transmet bien l'amour de la musique, surtout que pour un drummer, on s'entend qu'il faut être un peu... C'est une passion particulière là, pour jouer de la musique, parce que bon, on est clairement juste dans les percussions. Puis, donc là, c'est des témoignages de... Donc, ce documentaire en anglais sur Netflix, évidemment. Donc, c'est des témoignages de drummers plus ou moins connus, très connus.
Comme connu. Qui, dis-moi donc, des noms. Fais du name dropping, s'il te plaît.
Écoute, là, je parais mal parce que j'ai pas retenu les noms des personnes qui viennent dans le film. Mais c'est
mais bon, on peut dire au moins les groupes dans lesquels jouent ces drummers-là. Un des premiers drummers qu'on voit, c'est Jane's Addiction, Porno for Pyro.
Ouais.
Il y a aussi Chad Smith, si je ne me trompe pas, des Red Hot Chili Peppers.
Oui, exact.
Qui d'autre qu'on a?
Écoute, il y a vraiment une panoplie de drummers. Il y a le drummer de Iron Maiden.
Oh, c'est vrai!
Il y a le drummer de The Police. Il y a la drummeuse de Lenny Kravitz.
Oui.
Il y a une drummeuse que j'ai aussi oublié son nom, mais qui a joué avec
Motley Crue.
Motley Crue.
666.
D'autres drummers. Le drummer des Foo Fighters.
Mais pas notre ami de Nirvana.
Non.
Pas Dave Grohl.
Non, pas Dave Grohl.
On va dire le vrai drummer, pas celui qui...
Le drummer tape les drums avec les baguettes dans les Foo Fighters, qui a les cheveux blonds. Là.
Blond avec une barbe. Là. Il y a de l'air d'un Southern. Il y a de l'air de jouer dans Lynyrd Skynyrd.
Donc, c'est super intéressant parce que tous ces grands, ces musiciens-là qui ont un certain succès, on s'entend, là, qui ont une renommée internationale, ils vont tous de témoignages pour expliquer, comment ça se fait qu'ils jouent du drum? C'est quand la première fois qu'ils ont commencé à jouer du drum? C'est quand la première fois qu'ils ont eu un instrument, leur set de batterie? Ensuite de ça, ils vont avec leurs premières influences c'est quel drummer qu'ils ont vraiment fait tomber en amour avec la musique rock quand ils étaient tout jeunes.
Oui.
Donc là, au niveau de témoignages allant jusqu'aux Beatles, Ringo Starr, avec The Who, avec Keith Moon.
Oui. Méchant malade.
Méchant malade. Donc là, c'est le fun parce qu'on voit dans le documentaire nous présente donc des extraits de tous ces grands drummers-là qui ont...
Bonham de Led Zeppelin.
Aussi, c'est vrai.
Oui, qui est une métronome, qui est reconnu, qui est une machine.
C'est vrai, exactement, qui était vraiment quasi virtuose. Puis qui ont influencé, dans le fond, les drummers qui sont encore vivants aujourd'hui, qui ont un grand succès aujourd'hui. Donc, c'est super intéressant de voir un peu comme la généalogie, si on peut dire, des musiciens actuels, qu'est-ce qu'ils ont influencé, pourquoi ils ont commencé à jouer du drum, puis vraiment la passion de jouer de la musique. Puis je trouve que le film véhicule bien ça, transmet bien cette passion pour la musique, qu'à la fin du film, on n'a pas le choix que de juste écouter plus de musique.
Ça t'a pas donné le goût de t'acheter un drum? Ben... Moi, j'ai commencé à piocher ces casseroles, comme tous les petits culs dans le film font.
C'est vrai que, ouais, ben non, moi, maman. J'ai pas eu ce réflexe-là.
Non?
Ça m'a plus donné envie d'écouter de la vieille musique, je dirais, du classic rock, mais pas de piocher. J'ai pas ce talent-là, j'ai pas le rythme, non, j'ai pas ça. Mais c'est ça aussi qui est particulier, c'est que c'est pas tout le monde qui peut jouer du drum, tu sais.
Non, c'est très, très difficile.
T'sais, c'est pas n'importe qui peut apprendre rapidement à jouer du drum.
Non.
Il y a là qui l'ont. Puis dans le film, c'est un peu ça qui explique, c'est que quand tu l'as, tu l'as. Puis tu es un drummer. C'est vraiment comme, c'est comme ta destinée qui tombe sur toi. C'est tu l'as ou tu l'as pas un peu. Là, tu peux l'apprendre.
Ouais.
Je pense que oui, il y a des gens qui peuvent apprendre à jouer du drum.
Mais tu l'as ou tu l'as pas.
Mais pour avoir un talent du niveau des gens qui apparaissent dans le film,
c'est des années.
C'est
là.
Des gens qui ont aussi un certain talent naturel. Là,
mais le drum, pour avoir vu des gens jouer puis essayer de t'approcher un peu, qu'est-ce qui est vraiment fucké comparé à de la guitare, de la basse ou un autre instrument, c'est que c'est la coordination de trois membres séparément, plus ton cerveau. Puis c'est
de quatre membres même, les deux pieds.
Ouais, les deux pieds.
Puis
les deux bras.
Puis
même la tête d'une certaine façon, parce que tu
puis t'as des drummers qui chantent aussi par-dessus
ça. Ça, c'est incroyable.
Fait que écoute, ça m'a aussi permis de... Même, tu sais, quand il parle de Ringo Starr, tu sais, moi, j'avais comme un peu...
Ouais. Tu le mettais pas dans tes top 10,
ben, là, non, mais ça m'a comme réappris à...
Ouais, à l'apprécier, parce qu'ils l'ont comme réhabilité au panthéon des drummers importants. Il y a aussi le drummer de Cream...
Ginger Baker.
Tout ça, à part Ringo Starr, là, mais tous les drummers là, qui ont eu vraiment du succès, c'est comme des étoiles filantes. Là. Tu regardes Keith Moon, le drummer de Cream aussi, de Led Zepp, Bonham. Je veux dire, tu sais, c'est des...
C'est des personnalités.
Oui, c'est des personnalités.
C'est des gens qui ont un certain vécu, puis qu'effectivement, ils brûlaient la chandelle
par les deux bouts,
clairement.
Quand ces voitures n'étaient pas dans une piscine ou crashées à quelque part. Là,
ouais.
C'est assez...
Bref, les drummers, c'est un peu des weirdos, mais c'est des weirdos qu'on apprécie dans leur weirdness, parce que c'est clairement des gens qui ont un talent pour faire la bonne musique, t'sais.
Puis, je vais paraphraser, mais je pense que ce qu'on retient le plus de tout le documentaire, c'est que même si tu es le meilleur musicien au monde, tu seras jamais aussi bon que ton drummer. Dans le sens que si tu es un drummer poche, puis tu es un virtuose à guitare ou n'importe quoi, ça ne marchera pas.
Ouais.
La fondation, c'est le drum, puis tu pars de la base qui est le drum, le beat, la percussion, puis tu montes ça. Si ton drummer est poche, oublie ça. Si tu peux pas faire un
tout
groupe,
s'écroule.
Tout s'écroule.
Exact.
Fait qu'on n'aimera pas de band, mais il y a des bands que tu te dis, s'il y avait eu un meilleur drummer, il serait écœurant.
Ça aurait plus de punch. Ça aurait plus de punch. Oui, effectivement.
Hey, question piège. Avant qu'on retourne en musique. Toi, là, c'est qui un de tes best, là? Un de tes best drummers, là?
Je connais pas vraiment bien les drummers. C'est sûr que moi, j'aime aussi écouter beaucoup de jazz.
Ouais.
Donc, il y a des percussionnistes.
Tiki Nadon et la pollution du son. Moi, je l'adore. Moi, je l'aime.
Mais non. Sincèrement, j'ai pas réfléchi à ça. De mon meilleur drummer, je pourrais pas te donner de nom. Mais c'est sûr que, tu sais, il y a des styles musicaux où il y a des groupes, tu sais... Si je pense à tous les musiciens qui ont joué avec Miles Davis, par exemple...
Ouais. Mm-hmm.
Ben, on sait que c'est toutes des virtuoses. Là, j'ai pas des noms en tête, là, puis ça paraît mal, mais c'est ça. Il y a des drummers. Moi, personnellement, j'aime bien les drummers jazz.
Ouais.
Parce que, ben, c'est ça. Il y a un groove obligatoire qui est nécessaire. Là, quand tu fais du jazz, c'est.
Puis ils ont souvent comme un petit 2 minutes de spotlight ou un 30 secondes qui font. Un solo drum. Ils font des passes, puis là, tout le monde a la mâchoire qui tombe à terre parce que tu dis, OK, où est-ce qu'il a sorti ça? Moi, ce qui m'a impressionné dans le documentaire, c'est que vers la fin, mais on pourrait peut-être passer en musique, à la fin, tous les musiciens, tous les drummers font un jam ensemble.
Ouais.
Ça, c'est vraiment...
C'est une belle finale dans le documentaire. Ouais. Ben, la finale, on spoil rien, là, c'est rien de...
Ouais.
Mais effectivement, là, on voit... Pendant tout le trois quarts du documentaire, Count Me In, qu'on renomme, là, c'est des gens qui témoignent, hein, donc des témoignages, c'est des talking heads un peu, mais à la fin, on voit ces mêmes gens-là prendre des baguettes, jammer ensemble, puis ça passe super bien, puis c'est vraiment, vraiment, vraiment fun à écouter, fun à regarder. Puis un de ces musiciens-là, ben, c'est le drummer des Red Hot Chili Peppers, qui est Chad, j'oublie c'est quoi son nom de famille.
Chad Smith, et Chad on va Smith. L'écouter à l'instant même sur Mother's Milk. Vous allez reconnaître la chanson. Oups, ça a pas l'air d'être ça.
C'est pas la bonne chanson, Marc-André. Là, on est rendu à Red Hot Chili Peppers, le disque 2, la track 4. Fait qu'on va recommencer ça.
On va recommencer ça à l'instant même.
Il n'y a pas de problème.
C'est les deux, track 4. On était sur un autre beat. Ça, c'est les joies du direct, du live, du do-it-yourself.
Homemade.
Homemade.
Télétravail.
Old school represent. Yeah.
Alors, c'était la pièce Magic Johnson des Red Hot Chili Peppers, Marc-André. C'était une pièce de quel album exactement?
C'est l'album avec lequel je les ai connus, leur album Mother's Milk.
Qui est un album des années
1989, exactement. C'était leur bonne période, là, avec il y avait Higher Ground... La reprise de Stevie Wonder, il y avait If You See Me Getting High, Knock Me Down, tout ça. Fait que c'est leur époque, leur breakthrough. Là, c'était comme leur... Puis on n'avait pas le choix d'en mettre. Je sais qu'il y en a qui vont nous lancer des tomates puis tout ça. Premièrement, on va clairer le DJ, qui est Bibi, qui est moi-même. On est comme dans une installation rock and roll, do it yourself. Là. C'est entre le podcast, la radio pirate. Là. Mais on essaye que tout marche en même temps, sans s'enfarger d'un fil, sans que C'est ça. Mais c'est ça qui
nous... C'est excellent. Puis, on voulait continuer sur le fait qu'on avait vu le documentaire Count Me In, qui est sur Netflix, qui parle des drummers. Il y avait Chad Smith, qui est un intervenant dans le film à plusieurs reprises, dans le documentaire.
Puis, il est super intéressant. Ses interventions sont super bonnes. Puis, lui, à part d'avoir joué dans un petit band presque du glam rock, on voit une photo dans le chose. Il a joué, il est au fût des Red Hot depuis le début, ou presque le début. Non, c'est vrai, non. Au début, c'était une autre gang. Mais ils sont allés le chercher assez vite. Et à part ça, il joue avec Chicken Foot, qui est un band, c'est comme un collectif de All-Star. T'as Joe Satriani à la guitare, qui est un guitar hero. T'as les deux autres membres de Van Halen, Sammy Hagar, et le bassiste originel, qui est Anthony, je crois, je ne me rappelle plus de son nom. Puis qui ont un band, puis ils ont une couple d'albums, c'est du rock. Puis notre ami Chad Smith est au drum.
Avant Red Hot Chili Peppers?
Non, c'est présentement encore. Là. C'est comme son side project. C'est
aujourd'hui?
Ouais.
OK.
J'en ai pas trop écouté, mais c'est écoutable.
Wow, OK.
Mais moi, c'est ça, tu sais, Sammy Hagar, c'est... Moi, Van Halen, c'est David Lee Roth. Puis Sammy Hagar, je sais pas, c'est...
Qui est le deuxième chanteur de Van Halen.
Exactement.
Ouais.
Fait que là, on est à chaud. Non, c'est pas... On est à CKUT 90.3 FM.
CKUT, on écoute pas du classic rock ici.
Non, pas encore.
Non.
Puis on mettra pas tout le temps les mêmes tunes, mais faut les mettre du Red Hot à cause que... Mais c'est ça, Chad Smith, moi, je l'adore. J'espère que c'est bien ça, son nom, des fois, si je mélange des noms,
ça serait plate qu'on répète son nom tout en haut, c'est pas vraiment ça.
On
puis les gens qui nous écoutent, là, ça s'arrache les cheveux. C'est pas Chad Smith, son nom!
Non, c'est ça. Ah, c'est pour ça qu'on reçoit des beeps du hate letters. Non, mais... Souvent, il était à Saturday Night Live aussi. Là, faut que tu m'aides le nom du gars de Saturday Night Live qui ressemble, qui est un grand sec, un grand...
Will Ferrell.
Will Ferrell, qui est le lutin là, dans
un autre... Oui, entre autres, il a fait Elf. Oui, c'est vrai, c'est lui.
Mais tu sais, ce grand gars-là, il ressemble, puis des fois, il se déguise en drummer de Red Hot Chili Pepper. Le drummer de Red Hot Chili Pepper, il a comme... Il doit avoir comme 55 ans, 60 ans aujourd'hui, puis il a tout le temps une casquette à l'envers, comme un petit cul de 15 ans qui fait du skateboard, whatever. Fait que Will Ferrell se déguise en lui pendant que notre ami Red Hot Chili Pepper, il drumme, puis l'autre, il arrive avec un bâton puis une cloche à vache, puis il fait comme un solo cloche à vache, où ils font comme une compétition de drum, mais c'est inégal, un duel, mais c'est tellement mourant. Écoutez ça vaut... Ça vaut le détour.
C'est vrai que c'est étonnamment...
ressemble. Ils ont comme
c'est surprenant à quel point ils se ressemblent les deux.
Ouais. Surtout les mimiques faciales. Ben, tu sais, Farrell, il est bon pour...
Ouais, il a aussi un talent pour...
pour faire le déconner, quoi.
Ouais, exactement, exactement. OK, puis assez parlé des Red Hot Chili Peppers. Maintenant, on passe à la...
Les Red Hot bande dessinée.
Au segment littérature, bande dessinée.
Toujours les bandes dessinées.
Marc-André, tu as déniché des bandes dessinées qui sont des nouveautés, je crois?
L'autre, je ne sais pas. Je vais y aller assez rapidement.
Prends ton temps, Marc-André.
Non, je vais prendre mon temps, mais je sais que le temps avance vite. Monsieur Ferraille de Winslus et Cisco. Fait que ça, c'est leur nom d'emprunt. C'est des artistes européens. Français, si je me trompe pas, sont sur le label de bande dessinée qui fait tout le temps des bandes dessinées un peu rock'n'roll qui s'appelle les Requins Marteaux. Là, si j'aurais mon ami Ramon avec moi, il pourrait m'expliquer en long et en large, mais j'ai découvert Winslus avec un revamp de l'histoire de Pinocchio, mais un Pinocchio pour les adultes.
OK.
Fait que moi, à partir de ce moment-là, j'ai essayé de dévorer tout ce qu'il a fait. Puis c'est pas évident de trouver, tu sais, c'est pas des fois c'est des auteurs un petit peu plus, on va dire, underground ou, en tout cas, moins facile d'accès. Fait que celui que j'ai entre les mains, en plus, on parle de drummer, ça ressemble Mr. Ferraille, King of Metal. Fait que ça ressemble étrangement au logo de Motorhead. Et c'est argenté, tu sais, la pochette est noire, mais c'est argenté et rouge. C'est vraiment une pochette rock'n'roll. Puis à l'intérieur, des fois, ça n'a même pas rapport avec ça. C'est du comique, des fois. L'artiste, en plus, fait du collage, se fait de la réappropriation culturelle. C'est l'histoire d'un robot, Mr. Ferrari, qui... c'est comme un... La comparaison, ça ressemblerait à Bender dans Futurama. Tu sais, il fume, okay, ouais. Il boit, il couche avec des femmes.
Donc, un robot qui a une forme très...
humanoïde.
Simple, là, de canis. Là,
si ouais, c'est, ouais, c'est des canis. C'est comme des vieux robots en métal. Tu sais, un tin man,
ouais.
Un peu Wizard of Oz, là,
ouais,
un
ouais,
peu,
ouais.
Là, avec presque un entonnoir sur la tête. Fait que c'est plein de petites histoires qui tournent alentour de lui, de Monsieur Ferrari. Et ses histoires d'amour, quelques problèmes de la vie sexuelle, il explique ça. Il est comme un scientifique. Des fois, il est comme un espèce de géant. Et puis là, il est Attack of the 50-foot robot. Clin d'œil au film B des années 60-70. Fait que c'est comme un robot tout croche qui donne des mauvais conseils. Puis là, tu vois, l'auteur a vraiment une obsession avec Walt Disney parce que encore là, t'as encore un clin d'œil à Pinocchio, à la fée, à Jiminy Cricket, t'as Betty et Boop aussi.
Donc, faut dire que dans la BD, parce que là, je l'ai pas lu, mais oui. tu l'as devant moi, puis oui. t'es en train de feuilleter la bande dessinée.
Oui. T'es-tu excité?
Vraiment, parce que d'une page à l'autre, ou presque, ben, c'est qu'il y a plusieurs chapitres, mais c'est qu'à chaque chapitre, ben, il change de style,
oui.
complètement de dessin.
Oui.
Donc là, on commence tranquillement avec un style plus classique Mickey Mouse de Walt Disney, comme tu mentionnais.
Exact.
Puis ensuite, on va dans un style vraiment plus... je sais pas comment dire, soviétique, là.
Oui, graphique soviétique de propagande.
Propagande soviétique,
ouais.
Trois couleurs.
Exact.
Après ça, on se promène, on est plus dans le Robert Crumb, peut-être?
Oui, ou des presque aussi des parodies des premières bandes dessinées Detective Comics. Et il touche à tous les styles. Il y a même un Monsieur Ferrari en MF ou en Ronald McDonald, en Shiva, en espèce de machine de guerre à la Iron Man. Fait en tout cas, si je vous ai donné le goût de lire, prenez-le. Si je vous ai pas donné le goût de lire, lisez-le pareil. C'est vraiment rock and roll. Puis ça ressemble, la pochette, ça ressemble vraiment à du Motorhead, au drummer aussi. En parlant de drummer, qui est impressionnant, c'était le drummer de Motorhead.
Oui. Donc le livre, c'était Monsieur Ferrari ou Mr. Ferrari, King of Metal.
Oui, c'est en français. C'est ça, je cherchais le nom du Filthy Animal Taylor. C'était le drummer de Motorhead qui était né en 54 et qui est décédé en 2015, qui était le premier drummer de Motorhead qui a vraiment laissé une marque sur le métal. Il y avait sa signature. Et là, je vais passer vite à la deuxième bande dessinée. Je vais vous lire le résumé. C'est une édition, un éditeur que je ne connais pas vraiment qui s'appelle Grand Angle. Et les auteurs sont Mats et Futaki. Et le titre s'appelle Le Tatoueur. Fait qu'à l'endo, vite, ça dit ceci. Zoli se cache à Paris où il survit en pratiquant son art du tatouage. Jusqu'à ce qu'il rencontre Laszlo, un chauffeur de taxi d'origine hongroise, lui aussi. Laszlo confie à Zoli que les taximen connaissent tout de la vie des gens. Et le temps est venu de s'en servir pour renverser l'ordre établi. Fait que là, il y a des conspirateurs, il y a des... Dans le fond, c'est de la série noire. C'est du policier très dark.
Ouais.
Et là, c'est comme s'il y avait une association de taxis qui... C'est comme les Big Brother. Ça revient à ce qu'on a
c'est
déjà
C'est genre comme sur Uber, ce film-là?
C'est, ouais, c'est,
comme... c'est pas un film, c'est une BD, pardon.
C'est une BD, ouais. C'est les Uber de ce monde, mais à la Big Brother.
OK.
Fait qu'ils savent tout. Ah, je l'ai déposé à telle heure, devant telle adresse. Il y avait telle autre personne qui l'attendait. Va-t-il chez sa maîtresse? Va-t-il chez son dealer? Va-t-il? Fait que c'est un peu ça. Mais là, lui, notre personnage principal, Zoli, et non Zali, est recherché. Il se cache à Paris. Mais
okay.
De qui se cache-t-il? Puis pourquoi les chauffeurs de taxi voudraient négocier quelque chose? Fait que c'est ça, la bande
dessinée. Puis lui, c'est un tatoueur.
C'est un tatoueur. Fait que c'est super intéressant. ce gars-là, dans le fond, il peut voyager n'importe où, puis sa carte de visite comme tatoueur est très bien cotée. Fait qu'il fait des tatous très dispendieux, et c'est comme ça qu'il peut se cacher et survivre en faisant du tatou. Et ça se passe souvent la nuit. C'est très... c'est une bande dessinée en couleur, mais les teintes, c'est très du gris, du bleu marin... du jaune un peu sépia pour faire la lumière. Fait que moi, je vous le conseille, c'est un one-shot. Qu'est-ce que j'entends par one-shot? C'est que tu n'auras pas 10 autres numéros à lire. C'est une histoire.
Ça finit là.
Ça finit là.
D'accord.
Fait que super intéressant. Je rappelle le titre, Le Tatoueur. C'est pas très compliqué. Et c'est de Mats, M-A-T-Z, et Futaki. Et juste la pochette m'a attiré. C'est que je ne connaissais pas, fait que j'ai juste vu la pochette et je trouve ça, c'est un des tatous qu'il fait sur le dos d'un de ses clients. Et la pochette est en noir et rouge. C'est de toute beauté visuellement.
Excellente recommandation, Marc-André. On va regarder ça. Je remarque que les deux livres que tu viens de présenter, ce sont des livres avec la couverture tout en noir et en rouge. Donc, clairement, t'aimes le noir et rouge.
Exactement. Je n'avais même pas remarqué. Merci de ton observation.
Donc, on va continuer en musique tranquillement parce que là, croyez-le ou non, on va me placer un vinyle. Et Marc-André nous a déniché une rareté. On va découvrir ça ensemble. Marc-André, vas-y quand tu veux parce qu'il faut placer l'aiguille. Et je vais parler, mais en réalité, la musique va embarquer dans pas long. Genre là.
Il y a un homme qui habite à côté. Il a une fille que je veux aimer. Quand je lui ai demandé pour son consentement, il m'a dit non, mon gars, tu es un démon. Je suis un démon!
Je suis un démon. Je suis un démon. J'ai aimé d'être fait là-haut.
Des Maccabées, un groupe de garage de Sherbrooke. Et on enfile, ils vont en enchaîner une tout de suite avec « Je veux rien savoir ». Accordez-vous les boys, préparez-vous, on demande au drummer de donner le beat. Vas-y, on se tune, go! C'était les Maccabées avec deux chansons de leur EP, Dément, dont la première pièce était Dément et Je veux rien savoir. Tu veux-tu savoir quelque chose?
Moi, je veux rien savoir, Marc-André.
Moi non plus.
Je veux rien savoir.
Je m'en vais
chez nous, je lâche tout, je t'écœuré.
Ouais,
mais non, sans blague, c'est super bon ça. C'est les Maccabées. Comment je connaissais pas ce groupe-là?
Ben, pour faire une histoire courte, cet été, je suis allé dans le coin de Sherbrooke, Magog, et je suis allé à Ayerscliff chez des amis. Et mon ami Renaud, le lendemain qu'on couche chez eux au déjeuner, il disait hey, « Je vais te faire entendre un album, tu vas capoter, tu vas aimer ça. » C'est sûr qu'en déjeuner, écouter du gros rock, du rock garage, c'est le temps le fun. Et... ben, il dit, chez ton amour pour les breastfeeders et tout ça, mais veux-tu entendre la jeunesse? Veux-tu entendre de quoi qui est dans la même veine? Tu sais, du rock garage, un peu yéyé, tout ça.
Ouais, ouais, ouais.
Et un groupe local en plus de Sherbrooke. Fait qu'il me fait entendre leur album, leur long jeu. Et j'ai capoté.
Ouais.
Puis là, je me suis promené dans la ville de Sherbrooke pour le retrouver, pour l'acheter comme un malade. Fait que je suis allé chez un disquaire qui s'appelle Music City, où est-ce que j'ai acheté d'autres affaires super intéressantes que je cherchais depuis longtemps. Du prog, du québécois, du ska californien.
Est-ce qu'il était sur la rue King?
La rue King, oui.
Ah
oui, la rue... Okay. Attends, laisse-moi voir. Non, c'est une petite rue à côté, mais ouais, c'est à côté de la rue King.
Dans le centre-ville?
C'est dans le 819.
De Sherbrooke?
Pas dans le 514, pas 450.
Sherbrooke.
819, Sherbrooke. Represent.
OK, c'est bon.
Puis j'ai eu du fun. Le disquaire était vraiment cool. J'ai trouvé des belles affaires. Même dans un bin à une pièce, j'ai trouvé des. J'ai trouvé un Twisted Sister, mais il était magané. Je l'ai laissé un autre digger qui était à côté de moi. Puis il dit ah, moi, je suis capable de nettoyer des disques tout scratchés avec. Il me dit avec. C'est-tu avec un bâton de popsicle ou avec un cure-dent? J'étais comme « whatever, je te laisse. »
Wow.
Je vais pas me battre pour un vinyle à une pièce.
Ouais, ouais, ouais.
Fait que je parle au propriétaire du magasin que je répète. J'ai pas de commanditaire, j'ai pas de disque gratuit, mais en tout cas...
C'est une bonne adresse qu'on recommande.
Oui, oui, oui. Si vous êtes des tripeurs de vinyle à Sherbrooke Music City, c'est très cool. Fait qu'il me dit « Non, moi, je l'ai pas, le disque, le long jeu des Maccabées, mais je connais quelqu'un qui l'aurait. » Fait que là, il me donne l'adresse parce que je connais pas vraiment Sherbrooke.
C'est quoi l'adresse?
Ben, il m'envoie, il dit va au plan B.
OK.
Tu veux vraiment l'adresse?
Ben non.
C'est sur la rue du Conseil. Hein? Disqueur m'a donné un conseil. Sur la rue du Conseil, il dit va à Sherbrooke.
C'est le plan B.
C'est le plan B.
Puis c'est littéralement ton plan B à toi.
C'était mon plan B de trouver mon vinyle qui a un côté A, un côté B, face A, face B. C'est un disquaire de vinyle, de jeux vidéo, d'affaires rétro, des CD, des cassettes, des figurines. Fait que je vais là. C'était un dimanche. En tout cas, ça avait l'air fermé. Ça n'a pas l'air d'un commerce. Ça a l'air plus d'une maison.
OK.
Mais je vois qu'il y a des affiches dans la fenêtre. Fait que je cogne à la porte. Puis le gars ouvre la porte. On a tout le temps d'une anecdote, là.
Let's go, vas-y.
Fait que là, je dis au gars, je cherche le 10 des Maccabées. Il dit, c'est une blague? Je dis non. Je dis, c'est le disquaire Musique Cité qui m'envoie ici. Il dit, non, c'est une blague. Ben là, je dis non. Je dis, j'ai pas de caméra. Je dis, tu sais, c'est pas insolence d'une caméra. C'est pas surprise. Je dis non, je le cherche. Fait que là, il me regarde, il est comme réticent. Fait qu'il rouvre la porte. La porte était pas ouverte. Là, on se parlait dans le cadre de porte. Puis, okay. Tu sais, on était en
période. T'étais dehors.
Moi, je suis dehors. Ouais. Fait qu'il me fait rentrer. Puis là, c'est un disquaire. Puis, il me regarde, puis là, il avait l'air tellement sceptique que je dis, ben, j'ai un ami qui joue de la musique, puis il m'a fait écouter ça hier matin, puis moi, j'étais un fan des Breastfeeders, puis des affaires garage, puis il dit que je pourrais trouver ça ici, puis il m'a même dit que peut-être le propriétaire, c'était un membre des Maccabées.
Ah!
Et c'était lui.
C'était lui?
Oui, je pense que c'était le chanteur. Regarde la photo, là, le guitariste et le chanteur ça ressemble un peu. Là, fait que je peux pas. Je pense que c'était le chanteur ou le guitariste. En tout cas, peu importe.
Ouais.
C'est un des cinq membres du groupe. C'était lui le propriétaire du plan B.
OK.
B comme Benoît.
Puis sur la rue du Conseil.
Sur la rue du Conseil. Puis là, il m'a conseillé, j'ai pas mon album. Il dit, j'en ai pas. J'ai une copie pour moi, puis j'en ai un autre, puis c'est tout.
Okay.
Il dit, j'en ai pas à vendre. Mais j'ai ce que j'ai dans les mains, le EP de 4 tonnes. 2 tonnes d'un bord, 2 tonnes de l'autre. Puis là, il m'explique ça.
En vinyle.
Puis là, il m'explique tout ça. Puis là, je dis, ben, je suis un triple de vinyle, puis tout. Puis là, il a comme, tu sais, descendu un peu de sa
Donc là,
sa
garde, lui, là. Quand t'as cogné chez lui, ben,
il pensait que c'est une blague.
Il croyait pas qu'il y ait quelqu'un
assez fou.
Qui cherchait
de Montréal.
Un vinyle des Maccabées. Puis dans sa tête, ben, c'était mort et enterré depuis longtemps, si j'imagine. C'est ça.
Exactement. C'est ça la joke aussi, c'est que les Maccabées n'existent plus depuis un certain moment. Et même sa copine a comme. Tu sais, comme les rideaux. En tout cas, dans mon souvenir à moi, là, peut-être j'exagère, ils vont. C'était comme des rideaux presque, tu sais, comme dans les films des années 70, comme du backstop. Là, elle a comme regardé, c'était quoi la discussion, qu'est-ce qui se passait. Puis là, ça demandait, c'était quoi le. C'était énergumène-là qui cherchait le groupe des Maccabées de son chum. Mais finalement, je l'ai. Puis je cherche l'autre album. Mais l'autre album, il paraît qu'il y a juste quelqu'un. Il y aurait un producteur qui serait parti avec une boîte. Puis il l'a ramené en Europe. Puis ça a pogné là-bas. Fait que si tu veux en pogner, il y en a en Europe. Le 10, c'est pas super cher, mais c'est l'envoi.
OK.
L'envoi avec une certaine compagnie. Puis tout ça. Fait que ça complique.
Bref,
tout.
Les Maccabées.
Les Maccabées.
Le EP Dément, un groupe de Sherbrooke qui n'existe plus. Mais aller au plan B sur la rue du Conseil. Cogner à la porte et peut-être que, à force d'avoir des gens qui cognent à leur porte, ils vont se remettre à imprimer des nouveaux vinyles ou des nouveaux CD.
Super bonne suggestion.
J'en appelle à tous. Marc-André, c'est déjà la fin de l'émission, ou presque, parce que là, il reste presque plus de temps. Est-ce qu'on parle de la chronique nécrologique ou on part ça tout en musique avant de dire bye à nos amis?
OK, chronique nécrologique, la première, vite, on a perdu beaucoup de joueurs ces temps-ci.
30 secondes.
Charlie Watts, Lee Scratch Perry, Dusty Hill, Jean-Paul Belmondo. C'est qui l'intrus là-dedans? Jean-Paul Belmondo, c'est un acteur, mais il est décédé. On va mettre Molotov, un groupe qui a un excellent drummer, Randy, qu'on salue. Et c'est une cover des ZZ Top. Fait que continue à parler, moi j'installe.
Alors Marc-André, place le CD, paix sur le piton. On dit merci à tous d'avoir écouté. On se dit à la semaine prochaine. Bye-bye!
Bonne écoute! Is
virus de la COVID-19 et ses variants se propagent toujours au Québec. En cas de symptômes d'allure grippale ou s'apparentant à ceux de la COVID-19, tels que la fièvre, la toux ou la perte du goût ou de l'odorat, ou si vous avez été en contact avec une personne infectée par le virus, il est essentiel de passer un test de dépistage et de respecter les consignes d'isolement, même si vous êtes vacciné. Le dépistage demeure un des meilleurs moyens de limiter les éclosions. Pour en savoir plus, visitez québec.ca/test-covid-19. Un message du gouvernement du Québec.
Production Nuit d'Afrique invites you to celebrate its 35th anniversary in music. Come and discover 10 musical groups from November 2nd to the 7th at the legendary Club Ballatou. Don't miss these free special evening shows. For more information, productionnuitdafrique.com.
Merci beaucoup. Thank you very much.
En la pandemia, nuestros niños demostraron lo fuertes, pacientes y resilientes que pueden ser. Llegó el momento de que vuelvan a disfrutar de la niñez, junto a familiares y amigos, con sus compañeros de equipo, junto a otros niños. La vacunación contra la COVID-19 puede ayudar a que los niños vuelvan a ser niños. Protege a tus hijos y a quienes los rodean. Programa sus citas de vacunación cuando la vacuna esté disponible para ellos. Un mensaje del Gobierno de Canadá.
Throughout the pandemic, our kids have shown how strong, patient, and resilient they can be. But now, it's time for them to make memories again.